Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Idées en évolution. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Moreau, auteur, essayiste et professeur de littérature. Patrick Moreau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Labrec.
Et bienvenue. Comme j'ai mentionné, Patrick Moreau, vous êtes auteur, essayiste, professeur de littérature. Vous avez été rédacteur en chef de la revue Argument. Vous êtes aujourd'hui collaborateur régulier dans les pages du Devoir au sein de la série Point de vue. Vous avez également publié Ces mots qui pensent à notre place chez Liber en 2017. Pourquoi nos enfants sortent-ils de l'école ignorant chez Boréal en 2008? Alain Grandbois est-il un écrivain québécois chez Fides en 2012? Et vous avez également participé à différents livres collectifs, notamment Psychologie de la connerie, édition Sciences humaines 2018, ainsi que L'exil et l'errance, pardon, chez Liber en 2016. Mais aujourd'hui, on vous reçoit pour la publication de votre livre Écrire à contre-courant chez Somme toute le Devoir, qui est une collection de vos textes publiés au fil des années depuis 2018 à peu près.
2014, le premier.
2014.
Le plus ancien.
Le plus ancien. Donc, 2014, textes ont été publiés, comme je l'ai mentionné, dans les pages de Voir. Premièrement, qu'est-ce qui vous a donné le goût des mots du débat, là? Parce que c'est pas votre premier livre, c'est pas la première fois que vous prenez place dans l'espace public, vous prenez position dans l'espace public. Qu'est-ce qui vous a donné le goût des mots et du débat des idées?
Alors, le goût, oui, le goût du débat, c'est effectivement, j'aime débattre, j'aime discuter, j'aime argumenter, contre-argumenter. Bon, c'est un peu professionnel aussi, hein. C'est sûr que c'est ce qu'on enseigne à nos étudiants, même si c'est sur la littérature, c'est ce qu'on fait bon, à travers l'art de la dissertation, etc. Mais c'est aussi un goût personnel, j'aime les débats d'idées. Et donc, c'est au départ ce qui m'a amené à écrire, souvent pour contredire, dans le fond, des points de vue qui étaient exprimés dans les pages du Devoir, parce que c'est le journal que je lisais quotidiennement ou presque, et donc souvent pour contre-argumenter au départ, d'où d'ailleurs le titre du livre, à contre-courant, ça fait référence à cette idée de contre-argumentation. Autrement dit, quand une idée exposée dans un article ou dans la page idée me semblait contestable, tout bêtement, quand une idée, je n'étais pas d'accord avec elle, l'envie de montrer qu'on pouvait voir les choses autrement, tout simplement. Or, c'est ça, pour moi, un débat. C'est une manière de montrer différentes positions possibles sur une même question.
Je résume ici votre livre, basé sur ma lecture de celui-ci. Vous analysez, décortiquez et critiquez la censure contemporaine, les tendances moutonnières et l'inculture aux sources de la cancel culture, ou la culture de l'annulation, les dérives de la langue non-genrée, les effets néfastes de l'écran sur nos relations civiques et sur le discours public notamment. Comment décririez-vous votre propre livre dans ce cas-ci?
Comment le décrire? Vous l'avez très bien fait, je trouve. Alors, c'est vrai que, bon, j'ai dû sélectionner, évidemment, des textes pour les faire paraître sous forme de volume. Donc, c'est une collection qui a été créée par Somme Toute et Le Devoir. Quand on m'a offert, donc, d'y publier des textes, il fallait les sélectionner, bien entendu. Il fallait leur donner un certain ordre. Alors, j'ai choisi comme des sections que vous avez résumées. Et ça résume un peu les débats qui nous ont opposés, je dirais, dans la société québécoise ces dernières années. La censure, pour moi, cette nouvelle censure, là, j'imagine qu'on en reparlera plus tard, ça a été vraiment un déclencheur d'idées, un déclencheur de pensées, pour moi, un choc, disons-le comme ça. Et je ne suis pas le seul, bien entendu. Il y a bien des gens qui se sont demandé ce qu'il se passait dans la société et dans cette nouvelle culture qu'on va appeler le wokisme pour simplifier. Qu'est-ce qui se passait pour qu'on revienne à des demandes sensorielles assez brutalement. Il y a une dizaine ou une douzaine d'années que les faits se sont précisés autour de ces demandes de censure. Alors ça, oui, ça a été un élément déclencheur pour moi en termes de pensée et de réaction à ces phénomènes-là, de défendre donc la liberté d'expression. Alors c'est pour ça que la première section du livre, les deux premières en fait, sont consacrées à ces débats-là. La première, vraiment sur la censure elle-même. La deuxième parle davantage des effets de la censure sur la littérature. Autrement dit, la littérature, pour moi qui l'enseigne, ne peut être qu'un discours de liberté. Autrement dit, l'écrivain doit être libre de pouvoir s'exprimer. Or, on a aujourd'hui de plus en plus de pression qui s'exerce de toutes sortes de manières pour lui indiquer ce qu'il faudrait dire, ce qu'il faudrait taire, etc. Alors donc, c'est les deux premières sections. La troisième y est liée, la culture de l'annulation, c'est un peu également, bien entendu, une forme de censure. Donc, ces trois-là sont vraiment, je dirais, épidermiques.
Moi, c'est ça, le bras armé de la censure, on pourrait dire.
Oui, d'une certaine façon, ouais, le bras émeutier, je ne sais pas trop comment le définir. Et je dois dire que cette défense, elle est épidermique pour moi. Je crois que toute personne, et il est dur à comprendre d'ailleurs que tout le monde ne réagisse pas de la même manière, mais toute personne qui participe au débat d'idées devrait être attachée à cette liberté d'expression la plus importante possible, parce que c'est la seule chose qui nous permet d'exprimer nos points de vue, quels qu'ils soient.
Sommes-nous encore attachés au débat des idées? J'ai l'impression qu'on est à une époque où il est de moins en moins attaché à la liberté d'expression et donc au débat des idées. On veut plutôt imposer une vérité que je mets entre guillemets ici qui est subjective et donc le débat est de plus en plus optionnel.
Tout à fait. Il y a un côté dogmatique, là aussi étrange dans la culture contemporaine, qui se revendique d'ailleurs de courants de pensée qui normalement devraient déboucher sur une grande liberté de pensée et qui en fait aboutissent à imposer des dogmes de plus en plus, des choses qu'on n'a pas le droit de remettre en question, qui s'expriment souvent sous forme de slogans. Alors c'est un peu ça, je crois.
La pensée
qu'il faut...
slogan.
Oui, tout à fait. Et c'est ça qu'il faut combattre. Parce que évidemment, une pensée sous forme de slogan n'est pas une pensée, c'est juste un mot d'ordre. Donc ça aussi, ça me stimule à écrire et à contredire ce genre de manière de faire. Est-ce que je donnerais des exemples? Bon, je ne sais pas, mais pensons par exemple au transgenrisme. Ça ne s'impose pas comme un débat. Ça s'impose comme c'est la nouvelle vérité. Si vous êtes contre, vous êtes transphobe, etc. Il y a évidemment matière à bien des discussions sur le sujet.
Ma lecture de vos textes, j'en suis venu à la conclusion suivante, là. Vous dépeignez notre époque, donc nous-mêmes, finalement, comme étant une société, une civilisation, là, j'irais jusqu'à dire, d'incultes, de déracinés, d'individus infantilisés et sentimentalisés, ou sentimentalistes, comme vous le voulez, n'ayant aucune profondeur historique. Pouvons-nous combattre les bêtises, et je dis ici le néo-progressisme, mais vous avez dit le wokisme, c'est à peu près
la même chose, on peut...
que vous critiquez sans remédier à cette situation, les mots MAEX que je viens de mentionner, et surtout, j'imagine que la réponse est oui, comment peut-on le faire?
Comment le combattre?
Résoudre les problèmes que j'ai mentionnés, qui sont finalement l'inculture, le manque de profondeur.
J'aime bien dire en rajoutant de la complexité dans le débat, c'est-à-dire en montrant en fait la complexité des choses qu'aborde ce simplisme-là. C'est, par exemple, que derrière le sentiment, derrière le fait d'être blessé par quelque chose, eh bien, il y a quand même matière à réflexion, bien entendu. Que derrière telle ou telle affirmation, il y a tout un historique qui permet de montrer que ça n'est pas forcément vrai, ou du moins de nuancer les choses. Donc, j'aime bien cette idée de réintroduire une certaine complexité dans le simplisme. Mes mots seraient peut-être moins durs que les vôtres, mais je pense qu'on est dans une époque qui simplifie terriblement certains débats et qui perd effectivement tout sens de la complexité. Alors oui, une forme d'infantilisme parce qu'on réagit de façon passionnelle, mais simpliste. Et donc, je crois que le rôle du débat, c'est de montrer justement que ce simplisme-là n'est pas la vérité incarnée, n'est pas la vérité avec un V majuscule, et que le réel est beaucoup plus complexe que ça. Surtout les débats. Quand on parle, voyons comment on parle du racisme, comment on parle du féminisme, etc., de manière souvent extrêmement directe, mais fausse. Je ne sais pas, un exemple parmi 100 000. Définir le Québec comme une société patriarcale, est-ce que ça a du sens en termes historiques? J'aurais tendance à dire non. Et à le montrer, c'est-à-dire que si le Québec contemporain est patriarcal, à ce moment-là, toute l'histoire, toute la planète, toutes les cultures le sont, et donc, du coup, le terme ne sert absolument à rien. Autrement dit, si on veut continuer à utiliser, et c'est fort souhaitable de les utiliser, ces concepts-là, il faut forcément en limiter l'application. Quelque chose qui désigne absolument tout ce qui existe n'est pas utile en termes conceptuels, ne mène à rien.
Et est-ce que ce... cet ajout de rationalisme dans le débat convainc. Par expérience personnelle, j'ai eu plusieurs conversations avec différentes personnes, des débats pour différentes idées. Je ne sais pas si j'ai réussi à convaincre qui que ce soit, peu importe le rationalisme que j'espérais ajouter, qui devait être teinté, pour être franc, d'une certaine subjectivité, mes propres émotions, si on peut dire. Mais
ça l'est toujours.
Ça l'est toujours, exact. Mais par expérience, le débat mène rarement à convaincre l'autre plus qu'à, je dirais, moins que simplement ajouter certains faits pour essayer d'enrichir le discours. Mais qu'est-ce que ça donne spécifiquement à court terme? Je ne sais pas.
On ne convainc pas les convaincus, je dirais. C'est-à-dire qu'effectivement, débattre avec ce que j'appellerais des militants, des gens qui ont déjà une idée très arrêtée sur quelques questions que ce soit, c'est généralement voué à l'échec. Mais c'est l'intérêt, je dirais, que les débats soient publics. C'est-à-dire que quand on fait un débat public, on ne s'adresse pas uniquement aux gens que l'on va contredire, mais on s'adresse aussi justement au public. Et là, je crois qu'il y a une forme d'éducation à travers le débat. C'est-à-dire qu'on va y puiser des arguments pour et contre, et on va, à ce moment-là, développer une pensée. Je donne un exemple. J'ai beaucoup débattu ces derniers temps sur l'écriture inclusive. Les gens se font simplement dire « Ah ben le français est sexiste et il faut le rendre moins sexiste », c'est ce que j'appelle une pensée par slogan, c'est-à-dire qu'on n'explique rien mais on affirme et on en tire des conséquences, eh bien ils vont être convaincus parce que la plupart des gens n'ont pas le temps, n'ont pas le loisir, n'ont pas nécessairement les connaissances pour réfléchir à ces questions-là, qui sont justement des questions assez complexes. Donc je crois que le débat, c'est montrer à l'opinion publique qu'on peut avoir une position différente sans être pour autant un défenseur acharné du sexisme, du patriarcat, du masculiniste ou je ne sais quoi, mais simplement qu'on a des arguments tout à fait rationnels qui s'appuient sur la langue, qui s'appuient sur ce qu'est une langue, sur l'histoire de la langue, etc. Et donc montrer que la pensée par slogan, dans ce domaine-là comme dans d'autres, elle est tout simplement fausse.
Des fois, on touche des gens sans savoir aussi qu'on écrit publiquement, qu'on prend la parole publiquement. On ne le sait pas parce qu'on n'aura pas de retour sur la chose, mais en fait, on a eu un impact quelconque, disons. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a un lien entre trois de vos livres, soit le premier, « Pourquoi nos enfants sortent-ils de l'école ignorant », « Ces mots qui pensent à notre place » et le dernier, « Écrire à contre-courant ». J'ai l'impression que les sujets sont similaires, mais il y a une progression aussi là, dans votre analyse.
Peu. Je veux dire, je me suis posé la question a posteriori. Ce qui va les réunir, c'est clair que c'est cet attachement, je vais me répéter, mais cet attachement à des formes de complexité qui passe par ce que j'appellerais la culture générale. Alors, je l'ai défendu dans le domaine de l'éducation, et ça passe aussi par la langue, bien entendu. Ce que l'école donc devrait faire et ne fait pas toujours bien. Autrement dit, enseigner l'histoire, enseigner la réflexion, enseigner l'argumentation, enseigner la langue, mais pas uniquement comme outil de communication, mais aussi comme outil justement de construction d'un discours rationnel. Donc ça demande beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de vocabulaire que simplement la communication. Ça, c'était pour le premier, à propos de l'éducation, mais je crois que tout était un peu là en germe, c'est-à-dire que le livre « Ces mots qui pensent à notre place », c'était un peu la même chose, s'opposer à cette pensée par slogan, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire montrer que certains mots à la mode, certains mots qu'on utilise beaucoup dans le discours médiatico-politique, cachaient, en fait, une idéologie, et donc dévoiler ces sous-entendus idéologiques dont on n'a pas forcément conscience quand on va dire « il faut être ouvert », alors qu'on disait avant « il faut être ouvert d'esprit », qu'est-ce que ça indique comme différence, qu'est-ce que ça suggère comme attitude morale, politique, sociale, etc. Donc c'est un peu ça que je voulais montrer, et là encore, on renoue avec cette idée d'une certaine forme de complexité, justement, montrer que il n'y a rien de simple, et que les mots seuls ne veulent pas dire grand-chose, mais que souvent ils sont révélateurs de toute une pensée qui, si elle était exprimée de manière directe, convaincrait probablement beaucoup moins les gens que ce que j'appelais des mots slogans, des mots qui arrivent comme des coups de poing et qui se veulent convaincants alors qu'en réalité ils ne disent pas la moitié de ce qu'ils disent.
Vous dites dans l'un de vos textes, contrairement, et je cite ici, « Contrairement à un raisonnement, un sentiment ne se partage pas. » Comment expliquer que nous laissions le sentimentalisme aujourd'hui triompher de la raison? Je généralise ici, là, mais on revient un peu à une des questions précédentes. Il y a une forme de sentimentalisme qui s'est imposée dans le discours public qui revient un peu à la pensée slogan, dans le sens où quelques mots suscitent une émotion et après, toute réflexion logique et rationnelle prend le bord, comme on dit au Québec.
Est évacuée. Je prendrais l'exemple du mot nègre à Ottawa. Quelqu'un va dire « d'entendre ce mot-là en classe me blesse ». Être blessé, c'est évidemment, on peut compatir, mais c'est un sentiment, ça n'est pas une réflexion justifiant un interdit. On est parti de ce sentiment d'une personne, puis de quelques-unes, pour juger socialement que ce mot-là ne devait plus être utilisé dans aucun cas, etc. Et sans réfléchir à l'impact qu'un tel interdit pouvait avoir, puisque en français, où il n'a pas du tout les mêmes connotations qu'en anglais. Entre parenthèses, il y a une forme aussi de colonialisme linguistique, puisqu'on lui faisait dire en français ce qu'il dit en anglo-américain, alors que ce n'est pas du tout le même sens. En français, il a été abondamment utilisé, y compris dans des textes qui sont parmi les premiers textes antiracistes de la planète. Je pense entre autres à un pamphlet célèbre de Montesquieu. Et donc, l'interdire, en fait, reviendrait à interdire une multitude de textes littéraires, y compris des monuments du discours antiraciste. Et donc là, si on commence à réfléchir à ça, on se dit non, la censure est absolument intolérable et on ne va pas se fonder uniquement sur le ressenti de quelques personnes et sur le fait qu'elles revendiquent une blessure intime pour interdire des textes. À mon sens, ça n'a pas justement de bon sens. Bon, la deuxième chose, c'est que on ne peut rien répondre à quelqu'un qui vous dit « tel ou tel mot me blesse, me met mal à l'aise, etc. » Qu'est-ce qu'on répond ? Ben, moi, non. Ou bien je compatis, mais il n'y a aucun contre-argument possible à un sentiment. Autrement dit, si quelqu'un dit « bon, je veux interdire tel mot pour telle ou telle raison », on peut combattre, évidemment, cette demande sensorielle et combattre aussi les raisons alléguées pour revendiquer cet interdit. Mais par contre, si quelqu'un vous dit « moi, je me sens mal à l'aise quand on prononce tel mot devant moi », il n'y a absolument rien à répondre. Il y a juste deux choix, ça en fait. Soit dire « on s'en moque » et on continue à l'utiliser, soit dire « ah ben, excusez-moi, dans ce cas, je vais arrêter de l'utiliser ». Donc, c'est forcément confrontant. Comme le sentiment est confrontant. Telle chose me choque, ah ben non, pas moi. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Il n'y a plus rien à faire. On se tourne le dos et on part chacun de notre côté avec notre bagage de mots, d'interdits, de sentiments, justement. Mais ça ne mène absolument, socialement, ça ne mène nulle part.
Mais la liste de mots interdits, si je peux dire, ne fait que croître. Ou presque, quoi que je ressens un ressac, si on peut dire, ou disons, une inversion de ce phénomène ces temps-ci, là, je dirais même les derniers mois, peut-être la dernière année ou deux. Est-ce qu'on a réussi à inverser la tendance, comme j'ai dit, ou c'est peut-être simplement...
Je suis pas sûr qu'on soit encore dans l'inversion. Je dirais que je le souhaite d'une certaine manière. Mais en tout cas, on sent peut-être un fléchissement de ces tendances qui de toute façon, aller vers des revendications de plus en plus absurdes. Est-ce qu'on va interdire réellement et sérieusement les mots hommes et femmes, par exemple ? On s'entend que là, il ne s'agit plus de livres, mais il s'agit du langage complet qui va être complètement atrophié par ces demandes. Et ces demandes n'ont jamais de limite, bien entendu, parce que ce qui peut me choquer n'a aucune limite. Tout dépend du contexte, tout dépend de ma façon de voir les choses. Donc je crois qu'elles s'autodétruisent d'une certaine manière, ces demandes-là, et donc qu'elles n'ont pas d'avenir. Alors savoir si on est déjà dans le ressac, je ne me prononcerai pas, mais en tout cas je suis persuadé que ces tendances-là n'ont aucun avenir réel.
Et aussi un paradoxe où on accepte ces demandes principalement générées par un certain sentimentalisme, comme j'ai dit, des fois par sensibilité, des fois par manque de courage, des fois par crainte de se faire lyncher sur la place publique. Mais plus on dit oui, plus on ouvre la porte justement à des demandes techniquement illimitées.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y aurait un point, si on dit que cette idéologie s'autodétruit, s'épuise peut-être par elle-même, mais est-ce qu'il n'y aurait pas simplement une certaine fermeté idéologique ou du moins, certaine fermeté morale que nos institutions, peut-être même nos hommes politiques, nos universités, nos grandes institutions d'éducation pourraient adopter pour peut-être freiner, voire arrêter, inverser ce phénomène ?
On aimerait, mais je ne pense pas qu'on le verra. Mais il y a une forme, effectivement, de conformisme assez étrange. Je vais reprendre l'exemple du mot nègre. Au Québec, ça a suscité une levée de boucliers, contrairement au Canada anglais, où l'interdit était déjà une évidence pour la majorité des gens, en tout cas dans le milieu universitaire. Au Québec, ça a amené à une levée de boucliers, ça a amené à une prise de position unanime des partis à l'Assemblée nationale, etc. Donc, on pourrait se dire, le Québec a résisté et s'est levé pour défendre la liberté d'expression et pour défendre, par le fait même d'ailleurs, la langue française, l'usage d'un mot, etc. Le problème, c'est qu'en fait, malgré cette levée de boucliers, l'interdit, il est bien présent. Alors moi, je peux vous dire que dans les cégeps, je connais plusieurs professeurs de littérature qui ont abandonné l'enseignement de certains textes parce que le mot nègre y est écrit en toutes lettres et qu'ils ne voulaient pas, pas nécessairement parce qu'ils avaient peur d'une sanction. Normalement, il n'y a pas de possibilité au Québec de sanctionner un professeur qui aurait fait lire un tel livre. Et quand je parle de tel livre, c'est en l'occurrence des textes de Voltaire, qui sont donc des textes canoniques dans l'enseignement.
C'est pas que Pierre Valliard.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment des textes tout à fait canoniques dans l'histoire de la littérature. Et donc, c'est pas une peur... c'est pas une peur de la sanction directe, parce que les risques sont, je pense, assez limités, mais c'est une peur de susciter des réactions des étudiants, de créer un malaise... Et en même temps, quand même, en arrière-plan, le fait d'être à peu près convaincu que nos administrations ne nous soutiendront pas. Et donc, cette censure, elle se transforme en autocensure, mais l'autocensure est beaucoup plus efficace en réalité que n'importe quelle censure. D'ailleurs, le but d'une censure, c'est de provoquer l'autocensure, tout à fait. Alors ça, c'est aussi inquiétant. Il y a une espèce de, j'ose peut-être pas dire lâcheté, mais il y a on n'en est quand même pas très loin. En tout cas, un manque d'armature morale pour dire non. On dirait que socialement, collectivement, nous avons du mal à dire non à certaines demandes qui se drapent toujours dans des idéaux évidemment légitimes, évidemment acceptés très majoritairement. Ici, l'antiracisme. Mais la censure, c'est toujours, historiquement, il n'y a pas d'exception, c'est toujours présenté comme une défense du bien. Que ça soit la censure religieuse ou la censure communiste en URSS, on censurait ce qui était considéré comme mal. Donc, le prétexte moral n'est pas un bon prétexte pour censurer. Sinon, toute censure est légitime, bien entendu. Et je reviens à cet exemple-là. On aimerait que des gens, particulièrement des intellectuels, dans le milieu universitaire, dans le milieu collégial, des directeurs des recteurs d'université, disent « Non, votre demande est irrecevable ». Pour telle et telle raison. Et on est tout à fait d'accord qu'aucun discours raciste ne sera toléré, mais interdire un mot, ça n'est pas interdire un discours raciste, c'est interdire un mot. Ça n'a rien à voir.
En parlant des mots, dans votre texte, ou plus d'un texte d'ailleurs, au sein de votre livre « Écrire à contre-courant », vous parlez de la signification et du signifié. Pouvez-vous nous parler un peu de la distinction qui serait utile, pour le commun des mortels en ce qui a trait aux mots risqués?
Bon, c'est une idée qui est au centre de la linguistique moderne, c'est Saussure, donc le signifié, le signifiant, le fait qu'un mot a une apparence sonore, ce qu'on appelle son signifiant, mais que son signifié, en fait, est une notion intellectuelle, son sens, si vous voulez, la définition du dictionnaire. Or, évidemment, le signifié d'un mot ne prend sens que dans un discours. Alors, c'est pour ça qu'il est totalement aberrant de vouloir interdire des mots. Parce que, reprenons l'exemple du mot nègre, ce mot-là, on peut condamner, comment je dirais ça, ce mot-là ne peut pas, on ne peut pas dire c'est un mot raciste, dans le sens où évidemment il ne devient raciste que s'il est utilisé de manière raciste à l'intérieur d'un discours, par exemple comme insulte. À ce moment-là, clairement, il est raciste, mais le mot lui-même ne l'est pas. Et dans l'exemple de Madame Lieutenant Duval, c'était fascinant, puisqu'elle le donnait comme exemple justement d'une réappropriation par les communautés noires américaines de ce mot péjoratif comme un mot un mot honorable, un mot mélioratif à partir du moment où ils l'utilisaient entre eux. Donc c'est un exemple parfaitement légitime de ce phénomène qu'on connaît bien par ailleurs d'un point de vue linguistique. Mais il n'y avait évidemment pas l'once d'un discours raciste dans ce qu'elle disait. C'était purement et simplement un exemple parfaitement légitime. Et donc ne pas le comprendre et croire que le mot a toujours le même sens, c'est ne rien comprendre au langage lui-même.
Je vous cite encore une fois, c'est toujours au nom du bien qu'on brûle des livres. Vous n'êtes peut-être pas le premier à avoir dit la chose, du moins oui, quelque chose de similaire, mais ça vient d'un de vos textes. À la lecture de vos textes, on prend en conclure que vous écrivez non seulement à contre-courant, mais aussi contre l'empire du bien, là, pour utiliser un livre assez, ou du moins une série de textes assez bien connus de Philippe Murray. Comment et pouvons-nous critiquer, et je mets ici entre guillemets, le bien, comme on l'entend aujourd'hui, hein?
D'abord,
c'est un peu ce que vous faites dans vos, dans vos textes,
tout
au final.
Tout à fait, parce qu'on a l'impression, on revient sur l'idée de simplisme du départ, mais on a l'impression que s'impose de plus en plus dans la société depuis, disons, une vingtaine d'années, encore que Philippe Murray, c'était bien 10 ans plus tôt, donc ça fait peut-être, ouais, ça fait peut-être bien une trentaine d'années, s'impose une conception absolument simpliste du bien, avec un B majuscule. Autrement dit, le bien serait quelque chose dont qu'on est capable exactement de définir, on sait exactement ce que c'est, et à partir de là, il suffit donc de se mettre à son service pour être une bonne personne. C'est ce que j'appelle le moralisme. Et on l'oppose généralement à la morale qui, elle, est problématique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'est le bien, mais on essaie d'agir au mieux selon les circonstances, selon les personnes, etc. Ça, pour moi, c'est la morale. Et la morale engage la liberté de l'individu. Le bien, avec un B majuscule, débouche forcément sur des formes de conformisme. Et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui généralement appartiennent, disons, aux classes moyennes éduquées, puisque ce sont des phénomènes qui viennent en grande partie des universités, qui tout à coup se transforment en dévots du bien, alors qu'on attendrait d'eux, justement, d'elles, de ces personnes, qu'elles aient une réflexion morale un peu plus poussée que, disons, nos ancêtres du Moyen-Âge, qui eux aussi avaient une conception du bien avec un B majuscule, au nom de laquelle, ils allaient brûler leurs voisins ou brûler des livres. Alors qu'on en soit là est un peu étrange au XXIe siècle, mais il y a un peu de ça. Et d'ailleurs, les manifestations de ce bien-là, ne pas prononcer un mot en entier, mettre un point médian à tel ou tel mot, quand on y pense, elles sont un peu ridicules. Est-ce que ça suffit à définir quelqu'un comme une bonne personne ? Personnellement, je trouve ça totalement conformiste et totalement superficiel comme attitude. Mais c'est bien là-dedans que l'on est. On est dans une espèce de moralisation sociale où il faut montrer patte blanche. Alors, si vous ne dites pas mot en haine, mais que vous prononcez le mot en entier, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous êtes une mauvaise personne, vous êtes suspect de racisme, peut-être même raciste carrément. Si vous luttez ou n'utilisez pas tout simplement l'écriture inclusive et que vous écrivez encore des courriels en disant « bonjour à tous », alors qu'il y a des femmes parmi les gens à qui vous vous adressez, alors là, vous êtes un masculiniste achevé, etc. Rions-en, c'est quand même tout à fait ridicule. Personnellement, j'ai le plus grand respect pour les femmes, mais l'écriture inclusive, non. Et ça n'a rien à voir avec la façon dont on considère les femmes. C'est tout simplement une réflexion sur la langue, une réflexion justement aussi sur ce qu'est la moralité, donc ce qu'est bien agir, qui m'amène à prendre ces positions-là. Et mais je le répète, il y a quelque chose de très superficiel, de très artificiel dans ce moralisme-là. Et c'est un peu choquant de la part de gens qui, par ailleurs, sont des intellectuels.
On se donne bonne conscience à peu de frais, j'ai l'impression, avec ce genre de moralisme, comme vous avez dit.
Ouais.
Mais je reviens sur une chose que vous avez dite, l'école. Bon, vous avez parlé, vous êtes prof de littérature.
Ouais.
Vous avez dit, on a peur de ne pas être appuyé par la direction de un.
Je dirais même qu'on a la certitude.
Vous avez la certitude,
ne sera pas.
Tout à fait. Distinction importante. Et surtout, vous avez mentionné quelque chose d'extrêmement pertinent, c'est que ces idées-là, grosso modo, viennent de l'université. Donc, l'institution primordiale en ce qui a trait au savoir de notre société est à l'origine de cette espèce de moralisme. C'est pas inquiétant?
C'est inquiétant. C'est totalement inquiétant. Parce que...
C'est pas nouveau, par contre, si je peux me permettre. On peut penser aux années 60, mai 68 en France, ou ce qu'on a appelé le mouvement hippie ici, qui a peut-être ses qualités, là, mais qui a certains défauts aussi, qui a pris naissance à l'université. Donc ça date, c'est pas récent.
Oui, tout à fait.
Hein.
Alors d'un côté, il est normal que les universités soient un peu... les étudiants et certains enseignants forment une sorte d'avant-garde intellectuelle, voire d'avant-garde révolutionnaire, ou en tout cas qu'elle lance des idées audacieuses politiquement, socialement, c'est tout à fait normal. L'un des problèmes qui se pose, c'est quand il n'y a pas d'opposition au sein de l'université.
C'est-à-dire,
la différence par rapport aux années 60, c'est que le discours des universitaires est devenu de plus en plus homogène. Entre autres, toute cette vulgate, appelons ça déconstructionniste, qui s'est beaucoup imposée en Amérique du Nord, beaucoup plus qu'en Europe, comme la vérité. Et donc, il est très difficile aujourd'hui de trouver, je ne sais pas moi, un pédagogue ou un sociologue qui n'adhère pas à ces idées-là et qui enseigne pourtant à l'université. Alors, la sélection par les pairs, c'est quelque chose de très bien et de très démocratique, mais quand ça aboutit à un conformisme intellectuel, c'est un peu un problème. Alors, on sait qu'en Amérique du Nord, dans bien des départements, probablement moins au Québec qu'aux États-Unis ou au Canada anglais, mais le phénomène est quand même très présent aussi. C'est instauré une forme, dans certains départements, c'est évident, de conformisme intellectuel. Et là, ça, c'est grave, parce qu'à l'université, il devrait y avoir une pluralité d'opinions, une pluralité de thèses mises de l'avant par les différents enseignants. C'est ça qui est enrichissant, me semble-t-il, pour les étudiants. Si les enseignants ont tendance à dire tous la même chose, on a un problème, c'est que l'éducation glisse vers l'idéologie, vers le conformisme, vers un discours unique. Ça, j'avoue que j'ai des problèmes avec ça. Moi, quand j'étudiais en France, on avait des professeurs, on le savait, de toute tendance politique. Un tel était marxiste, c'était connu, bon, et ça l'empêchait pas de faire des cours. J'ai eu un professeur de tendance marxiste qui faisait des cours passionnants sur la littérature du XVIIe siècle. Tel autre était abonné au discours féministe en littérature, et c'était très bien comme ça. Mais il y avait 10, 15, 20 tendances différentes. Autrement dit, c'était plus enrichissant d'un point de vue intellectuel d'être confronté à des enseignants qui, globalement, étaient tous bons et construisaient tous un discours cohérent, mais qui étaient évidemment contradictoires dans leur base théorique, en tout cas. Là, il y a un problème si on n'a plus ça dans l'université actuelle, ou en tout cas, on l'a beaucoup moins qu'avant.
Non, mais je crois que c'est à peu près disparu, pas entièrement,
en grande partie.
Très largement, pour connaître certains profs universitaires qui m'ont confié que oui, certains, je ne sais pas des opinions ici, là, c'est des façons de penser qui sont très rationnelles, mais qui sont complètement évacuées ou qui deviennent dangereuses de les appuyer publiquement, que ce soit au sein des départements ou au sein de l'université en entier. Je donnerai un exemple personnel quand j'ai écrit mon livre « Comprendre le conservatisme en 14 entretiens ». Qui est donc constitué de 14 entre 5 différents conservateurs, penseurs, philosophes. Et j'ai commencé ce livre par quête personnelle, justement parce que dans les départements de sciences politiques dans lesquels j'étudiais, c'était à peu près que le discours de gauche qui dominait. Il n'y avait à peu près rien d'autre. J'exagère à peine. Il y en avait des voix discordantes, on peut dire, mais très peu. Et je me suis rendu compte que mon éducation, maintenant, me menait à l'extérieur des murs de l'université. Est-ce que ça serait un conseil à donner à un étudiant ou une étudiante là, qui serait curieux d'en apprendre philosophiquement, au point de vue de la langue, au point de vue de la pensée, lui dire oui, il va à l'école, bien sûr, va chercher tel ou tel diplôme, poursuit les intérêts qui t'intéressent, sauf que reste conscient que tu n'apprendras pas tous à l'université et qu'une bonne partie va se faire par toi-même à l'extérieur des murs de l'université.
J'avoue que je préférerais, mais c'est très utopique, que l'université change rapidement.
Ouais,
alors, je pense qu'elle changera, mais lentement. Et qu'elle s'ouvre justement à un pluralisme intellectuel. Ce serait beaucoup plus enrichissant pour tout le monde. Mais dans l'état actuel des choses, je crois que oui, lire à l'extérieur.
Lire, oui.
On a toutes sortes d'offres dans les essais, etc. Et donc, oui, ça permet, bien entendu, de trouver des pensées alternatives qui peuvent être extrêmement intéressantes et dont on ne parle pas forcément dans les cours. Et c'est dommage, effectivement.
C'est un manque, je dirais.
Oui,
c'est comme sortir handicapé de l'université, j'exagère, mais intellectuellement parlant, il nous manque quelque chose, j'ai l'impression. Je vous cite ici encore une fois, nous vivons une époque désespérément crispée. Qu'entendez-vous parler et comment pouvons-nous ou devons-nous nous décrisper?
Mélodramatique, je ne sais pas trop comment. J'ai tant, bon, c'est peut-être une question d'âge aussi. Je suis à un âge où on est moins peut-être sensible au drame, en tout cas où on part moins dans le discours passionnel. Mais j'ai l'impression, et c'est plus qu'une impression, je vais vous donner quelques exemples, qu'on embarque très rapidement aujourd'hui dans des discours absolument extrêmes. Donc quand je dis mélodramatique, c'est vraiment au sens artistique du terme, qu'on part dans l'hyperbole, dans l'exagération. Je ne sais pas, je donne un exemple. La mort, il y a quelques années, atroce, on s'en souvient, de George Floyd.
2020. Aux États-Unis, rappelons-le.
Ça a donné lieu à toutes sortes de manifestations très théâtrales où des milliers de manifestants mimaient la mort comme si elle leur était infligée à eux. C'est ça que j'appelle le mélodrame. Il est bien évident que c'était une bavure absolument épouvantable, mais il est bien évident aussi qu'on n'étranglait pas les Noirs à tous les coins de rue dans les villes américaines. Autrement dit, il y avait quelque chose d'un peu surréaliste à mettre de l'avant l'idée que c'était l'avenir de toute personne afro-américaine. C'était un peu ça qu'on mimait dans les manifestations. Alors c'est ça que j'appelle le mélodrame. On va prendre sur soi le drame arriver à quelqu'un d'autre. Or, on l'a vu récemment en France avec l'affaire Pellicot, des manifestations où des jeunes femmes se endossent l'identité de la femme violée. Et ça n'enlève rien à l'horreur du drame, bien entendu.
Surtout pour les Québécois, en fait, l'affaire Pellicot est moins connue.
Oui, donc c'est
une
femme qui a été droguée par son mari et qui l'a, on parle de soumission chimique, donc, et qui l'a livrée littéralement en pâture à d'autres hommes pour qu'ils la violent alors qu'elle était inconsciente. Donc c'est une affaire absolument sordide, absolument dégoûtant, qui a fait les manchettes pendant plusieurs semaines. Mais est-ce que ça implique que toute Française peut être n'importe quand violée et que tout Français ou tout homme est par le fait même un violeur? C'est là que j'estime qu'on passe au mélodrame. C'est-à-dire qu'on passe à une lecture très hyperbolique d'un fait divers. Et je le répète, aussi atroce et épouvantable soit-il, ce fait divers, est-ce qu'on peut généraliser les choses? Et on a tendance à faire ça tout le temps. Un dernier exemple, lors de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, on lisait un peu partout et on entendait des hommes politiques le dire « Ce n'est que le début, Poutine va envahir l'Europe ». Il suffit de voir ce que ça a donné militairement pour se rendre compte que, un, il n'en avait absolument pas les capacités, mais que, de deux, il n'en avait probablement pas l'intention. Mais dire ça vous faisait passer pour un espèce d'individu louche qui aurait été pro-russe, etc. C'est juste le bon sens et ça n'implique pas évidemment de légitimer l'invasion de l'Ukraine. La question n'est pas là. Simplement de dire attention, c'est pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement une volonté folle de conquérir le monde. Donc on glisse rapidement dans le mélodrame, on glisse rapidement dans une lecture comme personnelle, subjective de crises qui sont extérieures à nous. Et ça, je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, je me pose des questions sur ce rapport-là.
C'est un peu dans la nature humaine, hein, je crois.
C'est dans la nature humaine, mais je pense que c'est lié aussi, en fait, à l'Internet, aux écrans, disons-le comme ça.
Il y a un chapitre entier qui parle des écrans.
Qui porte là-dessus dans mon livre. Et alors, c'est quelque chose qui me fascine. Je ne suis pas de cette génération qui est née avec un écran entre les mains. J'ai l'impression que chez beaucoup de gens, l'écran se substitue au monde. Sauf que l'écran, il est mélodramatique. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il va nous montrer pour attirer notre attention, ce sont toujours des choses assez chocs dans lesquelles on veut nous impliquer, puisque c'est ça qui va nous faire cliquer sur l'image suivante, etc. J'ai l'impression, bref, pour résumer, que ça occasionne une perte de contact avec le réel, et justement avec la complexité du réel.
Le fait l'interposition de l'écran.
Oui, ouais. Le fait que si on prend en compte la réalité ou si on a un peu lu sur l'histoire et sur l'histoire militaire, etc., il est facile de se rendre compte qu'envahir un continent complet, ce n'est pas la même chose qu'envahir un pays. Vous voyez ce que je veux dire, on a toujours, donc, on retombe sur cette idée de simplisme. Le mélodrame, c'est de tout voir de façon très catégorisé, c'est tout noir, c'est tout blanc, la pureté, le mal absolu. Et c'est évidemment, là encore, une vision très simple des choses, trop simple des choses, et qui empêche de comprendre le réel.
Vous comparez aussi l'affaissement de la liberté d'expression aujourd'hui à la censure d'autrefois, censure dans le contexte québécois, disons, influencé par le catholicisme et la main lourde de l'Église à l'époque. N'y a-t-il pas une différence, cependant, entre les deux, dans le sens où aujourd'hui, à mon sens, la censure, la culture de l'aliénation, le néo-progressisme a plutôt comme objectif de déconstruire et donc de détruire aussi, à mon avis. Tandis que la censure de l'époque, aussi des fois malhabile était-elle, souhaitait préserver quelque chose. Il n'y a pas une différence, une distinction à faire entre ces deux censures.
Oui, et il y a même une étrangeté de la censure actuelle. Parce que normalement, dans tout, j'allais dire, dans toute l'histoire, la censure est toujours le moyen que prend le pouvoir, et généralement le pouvoir est plus ou moins majoritaire, pour imposer sa vérité à des minorités qui la contestent. C'est la logique même de la censure. C'est-à-dire
on prend le pouvoir ou on assoit le pouvoir avec la censure?
Elle défend le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Alors que ce soit le pouvoir de l'Église, mais cette censure ecclésiastique, elle s'exerçait, depuis toujours d'ailleurs, contre les rares minorités qui la contestaient. C'est-à-dire, bon, ça dépend des époques, mais par exemple, au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières, mais ils étaient minoritaires dans la société et dans l'opinion publique de l'époque. Et donc, la censure a beau jeu de défendre le bien qui est reconnu comme un bien par la majorité des gens, en général. Or, c'est la même chose, je reprends l'exemple de la censure communiste. Elle défendait le communisme, mais qui était considéré comme le bien absolu, le sens de l'histoire, etc., et qui avait plus ou moins, alors plus ou moins forcé, mais qui avait quand même l'aval d'une grande partie de la population soviétique, si on prend l'exemple de l'URSS. Alors, la censure actuelle est étrange. Parce qu'elle s'exerce au nom de minorités, et de minorités souvent infimes, et s'impose à la majorité. Alors c'est une espèce d'inversion du phénomène censorial « normal », entre guillemets, qui va de la majorité, qui impose ses volontés à la minorité. On a aujourd'hui donc des minorités qui imposent, et des minorités, je le répète, de plus en plus infimes, intellectuelle,
idéologique,
morale, enfin bon, et qui veulent imposer à la majorité des choses que la majorité ne conçoit même pas. On parlait tout à l'heure de l'interdiction du mot homme et femme dans toutes sortes de papiers administratifs. Maintenant, ça se fait, on parle de personnes, etc. La majorité, elle n'en a même pas conscience. Quand elle le découvre, c'est un peu une surprise.
C'est pas un peu vrai de l'histoire en général, dans le sens que les minorités font l'histoire. C'est toujours un groupe de gens relativement restreint en termes de nombre, mais qui sont très motivés, en général assez bien informés, éduqués, qui maîtrisent les mots. On parlait de la langue.
C'est vrai.
Et ces gens vont influencer les masses, on peut dire. Donc, c'est pas particulièrement nouveau.
Mais ça... elle ne censure pas, je veux dire. Ouais. Voltaire était victime de la censure, mais lui-même ne revendiquait pas le droit de censurer l'Église catholique, par exemple. C'est ça qui est étrange dans la situation actuelle. Alors, il faut s'entendre, ces minorités seules n'ont strictement aucun pouvoir. En fait, on est dans une situation vraiment étrange où le pouvoir, et je parle vraiment du pouvoir politique, soutient indirectement des demandes qui se présentent comme révolutionnaires. Je vais donner un exemple. Les gens qui ont renversé la statue de McDonald's il y a quelques années, au centre-ville de Montréal, et qui l'ont par le fait même décapité, si je me souviens bien, la tête avait cassé. J'ai plus le détail exact, mais en tout cas, bref. On a une manifestation qui vire un petit peu à l'émeute dans le sens où on s'attaque à un monument public. Aucune intervention du pouvoir, qui est pourtant supposé défendre la place publique. Autrement dit, on n'a pas vu de policier anti-émeute venir protéger une statue. Ça aurait été assez cocasse d'ailleurs, mais on ne l'a pas vu. Mais pire que ça, la mairie de Montréal a quasiment immédiatement donné raison aux manifestants en validant leur cause et en disant « bon, on va la retirer, on va faire une commission ». La commission a évidemment décidé qu'il fallait retirer McDonald's. Or, on est dans une situation vraiment bizarre, où on a des gens qui se croient révolutionnaires, mais qui sont soutenus, en fait, par l'État. C'est pareil pour le fameux mot nègre à l'Université d'Ottawa. C'est le recteur lui-même qui a sanctionné la professeure qui n'avait rien fait, Mais il l'a fait avec le soutien implicite du gouvernement fédéral. Je me souviens très bien des commentaires de Justin Trudeau à cette époque-là, qui, dans le fond, lui donnait absolument raison. Donc, c'est une situation bizarre, mais ça n'est pas du tout une censure des minorités. C'est en fait une censure qui est encouragée par un certain pouvoir, mais qui peut se donner le beau jeu de ne censurer personne, mais qui en réalité tolère une forme de censure qui n'est même pas populaire, puisque ce sont des minorités généralement assez peu représentatives de l'opinion publique. Donc là, on a un phénomène assez nouveau, mais qui s'est déjà vu dans l'histoire, dans le domaine religieux, entre autres, des extrémistes religieux qu'on laissait agir, et puis on tolérait, disons, leur extrémisme parce que ça faisait l'affaire des dirigeants religieux en place. C'est un peu à ça qu'on assiste aujourd'hui. Mais c'est plus dangereux. C'est plus dangereux parce que si on s'y oppose, indirectement, on s'oppose au pouvoir.
Oui, c'est ça. La fausse révolution aujourd'hui est plutôt cooptée par le pouvoir en place, ce qui lui donne une certaine puissance, mais une impuissance en même temps, parce que ces gens-là jouent à la révolution, un simulacre, mais ne font que servir les intérêts puissants de certaines personnes.
Exactement, et y compris les idéologies. Parce que quand on y pense, ce fameux wokisme qui se présente toujours comme... qu'on présente souvent comme d'extrême-gauche, révolutionnaire, etc. J'avoue que personnellement, j'en fais une analyse complètement différente. Moi, j'y vois plus un ultra-libéralisme. C'est-à-dire qu'en fait, les tendances qu'exagèrent ces manifestants-là sont les tendances du libéralisme canadien, qui d'ailleurs, alors pas du libéralisme au sens philosophique du terme, parce qu'elles sont plutôt anti-libérales, mais c'est bien le type de discours qui est encouragé depuis une vingtaine d'années au Canada par le Parti libéral. Alors parler de révolution, c'est évidemment un simulacre absolu. On n'est pas du tout dans une dynamique révolutionnaire. Au contraire, et d'ailleurs... si on poursuit sur cette question-là, les manifestations généralement venues des universités, les manifestants, pardon, généralement venus d'une université, ne représentent pas des victimes, ne représentent pas des catégories sociales victimisées par la société, mais représentent une forme d'élite. Ce sont des gens qui, demain matin, seront professeurs d'université, chefs dans l'administration, ou le sont déjà. Et donc, moi, ça me fait toujours penser à ce livre que j'ai adoré et qui me semble admirable, de Christopher Lasch, « La révolte des élites ».
J'en parle souvent.
Alors, j'ai écrit quelque part qu'on était maintenant au stade de la révolution des élites. C'est-à-dire qu'on a ces mêmes personnes, mais qui maintenant se veulent révolutionnaires. Mais évidemment, une révolution qui n'en est pas une, puisque, en grande partie, ces élites-là sont déjà au pouvoir.
Tout à fait. Il y avait un intellectuel français, son nom m'échappe, mais qui avait théorisé, à mon avis, à juste titre, l'infiltration de la gauche par le capital... En gros, les années 90, la fin du communisme avait fait que le grand...
Jean-Claude Michel,
oui, parfait. Okay. On y est, non? J'ai l'impression que la gauche, aujourd'hui, sans s'en rendre compte, défend les intérêts du grand capital.
Oui, alors là, il ne faudrait pas me lancer sur le sujet la gauche, parce que j'en aurais peut-être trop long à dire, mais effectivement, une certaine gauche, on l'a observé autant en Amérique du Nord qu'en Europe, a accepté, en fait, les idées du libéralisme. C'était l'époque de la mondialisation heureuse, hein, disons-le, les années 90 essentiellement. On a vu en France, à l'époque, le Parti socialiste, qui était un parti de gouvernement, qui alternait avec la droite au pouvoir et qui défendait jusque-là une social-démocratie qui était son credo depuis 1945 et même avant. On l'a vu changer tranquillement de voie et défendre donc une adaptation sociale à la mondialisation, ce qui voulait dire donc un frein au système social français, qui était assez généreux, disons-le comme ça.
Il l'est encore quand même.
Et qu'il l'est encore, mais beaucoup moins qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années.
Plus ou moins sous la présidence de Mitterrand à l'époque.
Ça a commencé effectivement.
Michel était assez critique de ça.
Tout à fait, ça a commencé sous le septennat de François Mitterrand. Et donc, on a vu cette gauche-là remplacer les demandes d'égalité sociale, donc disons les revendications social-démocrates, par de nouvelles revendications liées à l'antiracisme, au féminisme, à l'homosexualité, à l'immigration, etc. Alors, c'est le même phénomène qu'on a vu chez les démocrates aux États-Unis. Le nom de cet essayiste m'échappe, mais c'est un autre essayiste qui m'a bien marqué sur la situation américaine. Le titre français de son livre, c'est Pourquoi les riches votent-ils à gauche ? Et il en avait écrit un avant, dont le titre français était Pourquoi les pauvres votent-ils à droite ? Alors, c'est le titre français, en anglais, le titre est complètement différent. Mais il explique très bien que les démocrates ont fait exactement le même choix au début des années 70, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné des demandes politiques qui les associaient aux syndicats pour adopter des demandes politiques minoritaires. Donc ils se sont lancés à fond dans les débats sur la race, sur les communautés sexuelles, etc., le féminisme bien entendu. Alors c'est autrement dit une tendance forte qu'on observe également au Canada, bien entendu. Le Parti libéral, mais également le NPD, se sont largement lancés dans ce discours-là, au détriment de revendications, disons, plus universelles et donc plus égalitaires, qui concernaient tout le monde.
C'est ce que les Américains appellent la « French Theory ».
C'est un des héritages idéologiques. C'est un des héritages de la « French Theory ».
Le déconstructionnisme à la Foucault, tout à fait. Notamment. Ouais. Vous parlez de société thérapeutique, je cite ici la thérapeutique. Je crois que ce n'est pas un concept qui est maîtrisé ou je sais pas, une façon de penser que les gens ont d'eux-mêmes, la société dans laquelle ils vivent. Mais pouvez-vous nous dire un peu ce qu'est la société thérapeutique? Je trouve que c'est un concept intéressant.
Si je ne me trompe pas, je l'évoquais dans un texte sur justement la censure en littérature ou je crois que c'est dans ce texte-là où un groupe de prévention du suicide...
Les sex
voulaient enseigner aux auteurs ou aux producteurs de films, etc., ou de séries télévisées, comment parler du suicide pour ne pas nuire à la lutte contre le suicide. Alors c'est exactement ça que j'appelle la société thérapeutique. C'est une approche donc thérapeutique des problèmes sociaux. Autrement dit, on est de plus en plus convaincus, je dirais collectivement, que tous les problèmes peuvent être réglés par la bonne intervention de spécialistes. Regardez, dès qu'il y a un problème dans une école, un problème de violence, mettons, ou peu importe, on envoie des psychologues, on envoie des assistants sociaux, etc. J'en ris, mais bon, il y a évidemment quelque chose de tout à fait légitime là-dedans. De prendre soin, en particulier des enfants et des adolescents, c'est tout à fait normal. Mais en même temps... il y a peut-être quelque chose d'un petit peu illusoire à croire que tout le mal-être que l'on peut ressentir dans une société a forcément une solution dans l'obtention de soins. Alors c'est d'autant plus d'ailleurs amusant qu'en parallèle, on n'est plus trop capable de soigner les gens qui ont des maladies réelles et qui font la file dans les salles d'attente des hôpitaux. Et par ailleurs, donc, on est persuadé que tous les maux sociaux vont pouvoir être guéris par l'intervention de thérapeutes, de psychologues, etc. Je crois que c'est une illusion pour des tas de raisons, mais d'une part parce qu'on ne va jamais explorer les causes du mal-être. Cette attitude thérapeutique...
On veut les prévenir à tout coup.
On veut les prévenir ou on veut donner des trucs pour passer outre des méthodes, des techniques, mais on ne va jamais chercher l'origine du mal-être en question. Et donc, on ne le guérit pas. On met un plaster dessus, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, c'est un peu ça, cette idée de thérapeute. C'est l'idée que l'on peut tout guérir et que tous les maux sociaux seraient, dans le fond, des formes de maladie. Alors, dans les deux cas, je crois que c'est faux. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans la société, ça occasionne des malheurs, ça occasionne du mal-être. Si on ne change pas les choses qui vont mal, eh bien, ce mal-être perdure, et on pourra toujours inviter tous les thérapeutes qu'on veut à parler aux gens qui sont atteints par ce mal-là, ça ne changera rien. Peu de choses, en tout cas.
Oui, tout à fait. On tente de médicaliser l'existence humaine aussi, hein, de cette façon. Mais ça vient à notre requête, j'ai envie de dire. Je connais beaucoup de gens là, qui sont pour l'intervention de ce que j'appelle des technocrates, mais des spécialistes dans certains secteurs, de façon presque... Il n'y a pas de limite, en fait. Là. C'est en tout temps, en tout moment, il faut que quelqu'un vienne régler nos problèmes, les prévenir, c'est encore mieux.
Oui.
Individuellement, mais collectivement, on ne veut plus vivre la moindre parcelle de douleur. Et donc, tout doit être ouaté, tout doit être préparé à l'avance pour nous. J'allais dans une tangente ici, là, mais la pandémie, c'est un peu ça. En fait, la réaction moutonnière, j'ai envie de dire, des gens qui demandaient toujours plus de sécurité dans une situation où on peut de façon réaliste, on ne pouvait pas garantir une sécurité à 100%.
On ne peut jamais garantir.
On ne peut jamais, mais on voulait le faire. Et on créait l'impression de pouvoir le faire. Il n'y a pas quelque chose du point de vue collectif qui est inquiétant, c'est qu'on demande en fait cette espèce de paternalisme étatique.
Tout à fait, oui. Oui, je crois qu'on est demandeur de plus en plus. Ça peut être dans certains cas légitime, dans d'autres plus contestable. Et évidemment, là où il y a une demande, il y a une réponse. Autrement dit, il y a bien entendu des administrations, y compris le pouvoir politique, qui s'empressent de répondre à cette demande-là. Ce qui occasionne un phénomène un peu dialectique, parce que plus on intervient pour soigner les gens, plus on les fragilise d'une certaine manière. Alors, je voudrais pas du tout passer pour celui qui croit qu'il faut être droit dans ses bottes, comme disait un certain homme politique, et être prêt à affronter tous les maux possibles et imaginables. Mais on peut quand même dire qu'on manque un peu aujourd'hui de résilience pour affronter un certain nombre de malheurs. Or, les malheurs font partie de l'existence. Donc, simplement, en être conscient, et reconnaître que le bonheur n'est jamais garanti, et que d'ailleurs, que serait le bonheur si son inverse n'existait pas ? Il y a aussi ça, c'est que ce n'est pas vraiment le bonheur qu'on recherche, mais parce que ça ne va pas sans le risque de malheur, sécurité. Justement. C'est une forme de sécurité. Et l'excès de sécurité est évidemment un mal. Alors je suis tout à fait d'accord et je suis même absolument pour. J'ai évoqué tout à l'heure la social-démocratie. Je crois, moi, que la société peut et doit garantir un certain nombre de risques, minimalement, pour éviter qu'on sombre facilement dans la grande misère et dans la détresse la plus absolue.
Un filet social, comme on dit.
Un filet social. Mais par contre, la société ne peut pas garantir le bonheur de chaque individu. Elle peut, en revanche, armer les individus moralement, presque culturellement, pour qu'ils soient capables d'affronter un certain nombre de malheurs. On ne le fait pas. Je vais donner un exemple qui ne plairait pas à mes étudiants s'ils m'entendaient. L'école. Je vais évoquer mon éducation, mais bon, j'ai été éduqué plutôt dans une école où les professeurs n'hésitaient pas à mettre des mauvaises notes, à mettre parfois des commentaires assez assassins sur les copies. Mais généralement, on était les premiers, en tant qu'élèves, à reconnaître que c'était légitime. C'est-à-dire que le commentaire nous faisait peut-être pas plaisir si on disait « t'as rien fait et puis tu mérites un zéro », mais on était prêt à reconnaître que c'était vrai. On n'avait rien fait et que c'est pour ça qu'on avait une mauvaise note. Aujourd'hui, on ne veut plus froisser l'élève, et ça dès l'école primaire. Et donc, on veut que tout soit facile, que tout se fasse dans une certaine harmonie. Le résultat, c'est que les élèves, les enfants, n'apprennent pas vraiment à faire des efforts. Or, si on n'apprend pas à faire d'efforts dans le travail scolaire, qu'est-ce qu'on va faire plus tard ? Est-ce qu'on va l'apprendre plus tard ? Ou est-ce que l'apprentissage va être extrêmement violent sur le marché du travail et qu'à ce moment-là, on sera mal équipé pour affronter cette réaction-là ? Alors, c'est un peu ça que je veux dire. Moi, j'ai vu au cégep, parce que la marche en passant de l'école secondaire au cégep est très haute, les deux régimes d'enseignement sont très mal rivés l'un à l'autre, en termes de programme, en termes d'exigences, etc. Et donc, on voit souvent en première session des étudiants qui s'effondrent, qui ne comprennent absolument pas qu'ils aient une note épouvantable. Et ils s'effondrent moralement, parce qu'ils n'en ont jamais eu. Et donc, ils ne sont pas équipés pour affronter ne serait-ce qu'une mauvaise note. Alors, on a beau les consoler en leur disant « mais ça n'engage pas ni ta session ni la réussite du cours, mais ça te donne un signal que tu étais mal préparé pour ce premier examen ». Mais est-ce que c'est normal à 17 ou 18 ans que des jeunes ne soient pas équipés moralement pour l'échec ? Les échecs, c'est pas mauvais dans la vie, à mon avis. Il me semble que vivre des échecs, c'est un apprentissage tout à fait normal de l'existence humaine. Je dirais même souhaitable. Et des échecs à l'école, soyons clairs, ce sont les moins graves. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'engage pas la vie entière, ça n'engage même pas une année scolaire. Ça apprend simplement qu'on s'était mal préparé. Et si on réagit correctement, on se prépare mieux la fois suivante.
Si la logique actuelle du ce qu'on appelle le wokisme ou le néo-progressisme va jusqu'à son aboutissement logique, disons, il n'y a rien qui l'arrête, à quoi est-ce que le monde ressemblera-t-il?
Oh, intéressant. Ça sera un sujet romanesque assez intéressant.
Une dystopie, peut-être?
Oui, une sorte de dystopie.
Ou une utopie, dépendamment du point de vue.
Si on... Un monde beige, moi, c'est un peu la crainte que je vois se profiler. C'est que, dans le fond, ce qui est au cœur de ce mouvement-là, c'est toujours un peu la même chose. Il ne faut blesser personne. Le problème étant que tout est susceptible de blesser quelqu'un quelque part. Je ne sais pas, moi, bientôt, quoi, le mot « grand » va être banni parce qu'il y a des gens de petite taille. Et donc, si on parle de grands, de grandes personnes, mettons, ça serait vexant pour ces personnes-là. Alors, soyons raisonnables, je le répète, tout peut blesser quelqu'un à un moment ou à un autre. Et au lieu d'apprendre, justement, cette résilience, attention, ça n'est qu'un mot, vous n'avez pas à en faire une maladie. Apprenez à vivre avec, tout simplement, et à comprendre que tel ou tel mot n'est pas nécessairement une insulte personnelle qu'on vous fait. Ça serait un apprentissage moral tout à fait bienvenu. Mais si on apprend aux gens à devenir de plus en plus paranoïaques, c'est-à-dire, parce que c'est un peu ça, on leur apprend à être de plus en plus susceptibles aux réactions d'autrui, l'idée même de micro-agression, c'est ça. C'est une espèce de susceptibilité à fleur de peau qui fait qu'on va tout percevoir comme une agression à notre endroit. Donc si on continue dans cette voie-là, qu'est-ce qui nous attend sinon le silence, d'une certaine manière? On n'osera plus parler, on n'osera plus que tenir des discours les plus aseptisés possibles, c'est-à-dire les plus conformistes, les moins intéressants, un monde beige. C'est exactement ce que je verrais se profiler. Or, je ne pense pas qu'on en vienne là. Et d'ailleurs, au contraire, cette aseptisation du discours provoque exactement l'inverse. C'est-à-dire un discours provocateur qui, lui, va reprendre les mots du racisme, les mots antiféministes, etc. Et qui est un discours de réaction, mais qui n'est évidemment pas plus souhaitable que le discours aseptisé du wokisme, disons-le comme ça.
Et est-ce qu'on pourrait devenir étranger à notre époque? Vous écrivez à contre-courant ici, là. Mais il n'y a pas un danger, des fois, de devenir étranger à son époque, dans le sens où on la rejette tellement, justement, dans une forme de réactionnisme, comme vous avez mentionné, qui fait que, finalement, on s'en évince soi-même et on devient étranger à l'époque dans laquelle on vit.
Ah, une sorte d'exil. Une
sorte d'exil mental,
oui. Oui, ça peut... je pense qu'on le voit. Enfin, moi, je le vois.
Je le vis pas
personnellement, mais j'ai l'impression de voir certaines personnes, oui, je pense à l'université, qui se disent, bon, si on ne peut plus y défendre telle ou telle idée, eh bien, donnons l'apparence du conformisme et puis gardons pour l'entre-soi, entre amis, etc., le discours auquel on croit vraiment. Alors oui...
Ça se voit beaucoup. Là.
Oui, puis ça a toujours existé. Alors ouais, c'est étrange, entre parenthèses, parce qu'on est loin de vivre sous une dictature, on s'entend. Et pourtant, c'est le genre de réaction que l'on vit sous les dictatures. Cet exil intérieur, on en a parlé à propos de l'URSS, on en a parlé à propos de l'Allemagne nazie. Hein, ces gens qui ne toléraient pas le racisme, mais qui n'avaient pas non plus le courage d'être des opposants et qui donc se retiraient dans leur fort intérieur. Alors qu'une société qui est fondamentalement une société démocratique amène à réagir de la même façon, là aussi, c'est une autre étrangeté. Je dois dire que je suis très surpris, personnellement, par le présent. Je me rends compte que j'utilise souvent le terme « étrange », mais c'est exactement ça. On vit une situation politique, historique, un peu étrange.
En conclusion, on l'a mentionné, vous êtes professeur de littérature. Il me semblait pertinent de vous poser la question: quels seraient les quelques textes, les œuvres qui doivent absolument être lues dans une vie? Ça peut être 3 ou 4,
dans
ça peut être
vie.
5 ou 6, mais comment dire, par où commencer?
C'est un mandat difficile, j'avoue que j'aurais même pas de titre, je dirais, moi j'encourage mes étudiants de lettres. Parce que ce ne sont pas forcément des œuvres faciles, mais à lire les œuvres anciennes. Parce que les étudiants qui s'engagent en littérature sont souvent avant tout des lecteurs d'œuvres contemporaines. Mmh. Ils peuvent être de grands lecteurs, mais sont rarement attirés par les œuvres plus anciennes. Alors moi, j'avoue que ça vient un peu de ma formation, mais quand j'étudiais en littérature, on n'étudiait pas de textes contemporains. On étudiait essentiellement des textes relativement anciens. Alors quand je dis relativement, on étudiait quand même la littérature du XXe siècle, mais on avait des cours obligatoires, littérature médiévale de la Renaissance, du XVIIe, etc. Donc on avait beaucoup de lectures anciennes. Et on apprend à lire ça, et ça apporte beaucoup. Moi, je dois dire que je suis plus un lecteur de... Et plus on vieillit, je crois que c'est un phénomène assez naturel, plus on se reporte vers des textes anciens, des classiques. Parce qu'on se rend compte tout simplement que les relire est souvent beaucoup plus enrichissant que de lire des textes contemporains. Donc je ne sais pas si je dois lancer des œuvres Shakespeare, le Don Quichotte. Moi, j'aime beaucoup les humanistes du XVIe siècle qui sont plus beaucoup lus, je pense. Ce ne sont vraiment pas des textes à la mode, mais Érasme, par exemple, qui me semble d'ailleurs très proche de notre époque, parce que lui aussi, il a vécu une polarisation hein, entre protestants et catholiques, et il s'est retrouvé un peu coincé entre les deux, puisqu'il était un féroce critique de l'Église catholique, mais en même temps, il l'était fondamentalement catholique, et il l'est resté jusqu'à la fin de sa vie. Donc il s'est comme retrouvé coincé entre Luther et le pape, en quelque sorte. Mais c'est en même temps quelqu'un qui est très critique, mais qui n'est pas du tout révolutionnaire. Il veut juste une évolution humaniste, justement, des choses. Bon, il y en a des tas d'autres. Hein. Moi, j'aime beaucoup, je ne sais pas, Victor Hugo. Je pourrais vous énumérer des textes jusqu'à demain matin. Oui, ces grandes œuvres dont on sait, parce qu'elles ont traversé l'épreuve des siècles, qu'elles sont des grandes œuvres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire de contemporains, hein, bien entendu. Mais disons qu'il y a dans les textes anciens une ressource de sagesse. Je ne sais pas, un exemple parmi des dizaines d'autres, Tocqueville, sa réflexion sur l'Amérique est extrêmement contemporaine. On peut y puiser toutes sortes d'idées pour comprendre la société démocratique dans laquelle on vit.
Et très souvent cité. Vous mentionnez aussi l'auteur américain Philip Roth. Oui,
il avait, en tout cas, je ne suis pas un grand lecteur de son œuvre au complet, mais il a écrit certains romans qui sont fascinants, entre autres La Tâche, sur laquelle j'ai plusieurs fois écrit, puisqu'il analyse justement cette progression de la cancel culture dans les universités américaines. Bon, c'est l'histoire d'un professeur qui est sanctionné pour avoir prononcé un mot que l'on va considérer comme raciste alors qu'il ne l'était absolument pas dans son esprit. Donc on voit bien se profiler des choses qui sont très actuelles aujourd'hui, et ça a été écrit il y a une trentaine d'années.
Patrick Moreau, rappelons que votre livre « Écrire à contre-courant » est disponible dans toutes les bonnes librairies.
J'espère.
Espérons. Je vais inclure un lien donc, dans la description, bien sûr. Patrick Moreau, mot de la fin.
Mot de la fin, je dirais que si je devais inviter les gens à quelque chose, ça serait à prendre le risque de penser par eux-mêmes, c'est-à-dire à ne pas se fier à cette espèce de discours d'ambiance là, qu'on entend dans les médias un peu partout, mais à accepter de prendre ce risque de penser par soi-même et de nourrir cette pensée, c'est-à-dire de refuser tout simplisme, de refuser toute pensée prédigérée là, qu'on nous lance à travers toutes sortes de slogans, mais d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient. Toujours l'origine des choses est intéressante dans la pensée, je pense à l'origine philosophique, par exemple. Je sais pas, un exemple parmi d'autres possibles, le débat sur la laïcité qui oppose à l'heure actuelle une majorité de Québécois à une très grande majorité de Canadiens anglais. On peut y voir, alors on le présente souvent comme un démocratisme plus affirmé du Canada anglais qui serait plus respectueux de l'individualisme, etc., de l'individu, et un côté plus répressif et régressif, disons-le comme ça, de la société québécoise. Or, ça n'a rien à voir. Quand on creuse ces notions-là, on réalise qu'elles sont très fortement culturelles. La notion, qui n'est pas d'ailleurs de laïcité, le mot laïcité n'existe pas en anglais, mais la notion de tolérance que pratique le Canada anglais s'enracine dans les philosophes de la tolérance du XVIIe siècle, en l'occurrence John Locke. Mmh. Et la tolérance britannique, c'est une tolérance de communauté religieuse. Autrement dit, à une époque où on va accepter, l'Église officielle anglicane va accepter de tolérer les diverses sectes protestantes et donc de leur laisser une totale liberté de culte, elle va à la même époque, en revanche, persécuter les catholiques parce qu'ils apparaissent comme les ennemis de l'Angleterre. Or, il y en a quand même pas mal des Anglais catholiques à cette époque-là. Environ 10% de la population a gardé le catholicisme. Et elle va persécuter encore plus fortement les athées, qui, eux, sont ultra minoritaires. Donc, c'est une tolérance qui est quand même assez limitée. Mais le Canada anglais est resté, et tous les pays anglophones, et c'est tout à fait normal, c'est devenu leur credo de la tolérance. Et donc, ils n'ont aucun mal à accepter l'islam, le bouddhisme, le sikhisme et tout ce que vous voulez, de même qu'ils ont accepté les sectes protestantes à une époque donnée. Or, la laïcité, elle, c'est une idée beaucoup plus récente, qui est en fait l'héritage des Lumières. Donc, ça apparaît au siècle suivant. Et les données de la laïcité ne sont pas du tout les mêmes. Les données de la laïcité, c'est de permettre la liberté de conscience, c'est-à-dire de permettre à tout individu de grandir dans une société où on ne lui impose pas des dogmes religieux. Mais si on y pense, ça implique une mise en question des communautés religieuses elles-mêmes, puisqu'il faut à ce moment-là protéger les enfants de ces communautés-là pour leur garantir une liberté plus tard comme adultes. Donc ce n'est pas philosophiquement la même chose. Après, on peut se demander laquelle des deux est la plus démocratique.
C'est plus contraignant, en tout cas.
C'est plus contraignant, tout à fait. Mais laquelle est la plus démocratique ? On peut poser la question. Ben, évidemment, par tradition philosophique, j'estime que c'est de la laïcité.
Patrick Moreau, merci beaucoup.
Merci à vous.